aux yeux, tu sais.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM, www.re2m.com, et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Oui, ça va mieux la voix, j'avais plus de voix mais elle est revenue.
Ça sera plus simple pour faire de la radio.
Voilà, ça s'en va et ça revient les voix, c'est comme ça, les cordes vocales. Bonjour à nos chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Évidemment, c'est pas le bonjour, mais bon, Damien vous a déjà expliqué pourquoi on est jeudi et pas mercredi.
C'est ça. Et donc, on va faire comme si. Et tu vas aujourd'hui nous présenter les films qui ont été nommés pour le Festival de Cannes 2021,
oui,
qui aura lieu cet été au mois de juillet.
Du 6 au 17 juillet, hein, on répète les dates. Et ce n'est pas du 6 au 7, c'est du 6 au 17 juillet, oui. Et donc, le jeudi 3 juin, en fait, Pierre Lescure et Thierry Frémont, à 11h, ont présenté la sélection officielle de la 74e édition du Festival de Cannes 2021. Voilà, donc ils ont sélectionné parmi tous les films qu'ils ont vus, il y en avait énormément, plus de 60, je crois, d'ailleurs. Et ils ont sélectionné donc ceux qui concourent pour avoir, évidemment. Qu'est-ce qu'ils espèrent avoir, Damien, à ton avis ?
La Palme d'Or.
Eh bien oui, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent. Donc on a, alors en film d'ouverture, on a Annette, le titre du film, Annette, qui va sortir le 6 juillet, hein, le premier jour du festival. C'est une comédie musicale rock avec Marion Cotillard et Adam Driver. C'est un film de Léo Carax. On le connaît, Léo Carax. Hein. Il a 60 ans, il a déjà 8 longs métrages à son actif. Il a tourné entre 1983 et 2021. Voilà. Je pense que ça doit être très beau, Annette. Je pense que ça va être une très jolie comédie musicale. Et Marion Cotillard, bon, hein, on la connaît, on sait ce qu'elle sait faire. Et elle sait tout faire. Voilà, en partant de tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant avec Guillaume Canet, avec qui elle a beaucoup tourné, qui est son compagnon, mais avec qui elle a tourné également. Voilà, donc on la connaît bien. Ensuite, ils ont sélectionné L'histoire de ma femme. C'est un drame, pardon, romance. Oui, c'est romancé, c'est historique. Là, je n'ai pas la date de sortie, hein, c'est prochainement. C'est réalisé par Ildikó Enyedi, qui est une réalisatrice hongroise. Elle a 65 ans et 5 longs métrages à son actif, hein, déjà. Voilà, parce qu'elle a commencé très tard, mais elle a déjà quand même 5 excellents longs-métrages. Elle est reçue dans tous les festivals. Bon, elle est très, très appréciée chez elle. Ensuite, ils ont sélectionné Benedetta. Alors, Benedetta, c'est un nouveau film sulfureux, dirait-on. C'est drame, voilà, c'est historique. C'est Paul Verhoeven. Alors, Paul Verhoeven, on sait ce qu'il fait quand même. Effectivement, c'est pour ça que je disais que ça va être quand même encore un... Voilà, c'est un nouveau film sulfureux, puisqu'on sait ce qu'il aime. C'est un réalisateur hollandais, lui. Il a 82 ans, 22 longs métrages à son actif. Il a commencé dans les années 60, d'ailleurs. Et on aura dans ce film Virginie Efira, pourquoi elle ? Virginie Efira, voilà, qu'on connaît quand même, hein, qui a un rôle assez particulier. Elle va jouer le rôle d'une nonne lesbienne dans ce film.
C'est tout à fait
étonnant, tout à fait. Alors la sortie, par contre, j'ai la date, ça sort le 9 juillet 2021. Donc on en reparlera d'ici là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Ah oui, ils ont choisi Bergman Island. C'est du drame, c'est de la comédie, c'est du fantastique. Il y a Tim Roth dedans, qu'on connaît, qui est un grand acteur. Et c'est un film de Mia Hansen-Love, qui est une réalisatrice française. Elle a 40 ans, elle a 7 longs métrages à son actif déjà. Et oui, alors c'est l'histoire de deux cinéastes qui s'installent sur l'île suédoise de Far, où vécut Ingmar Bergman, puisqu'il s'agit de lui, hein, Bergman Island, et où il est décédé d'ailleurs également. Je crois que c'était 2007, oui, il avait 89 ans. Donc c'est un film qui sort le 14 juillet 2021. On l'aura dans nos dates, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils ont mis de côté Flag Day. Ils ont choisi Flag Day, qui est un film, qui est un drame romancé, Oh là là, alors là, je vais vous dire, c'est un japonais, un réalisateur japonais. Donc, c'est Ryusuke Hamaguchi. On avait déjà parlé de lui, il a 42 ans, 18 longs métrages à son actif. Voilà, il est metteur en scène aussi. Enfin, il fait un tas de choses, ce réalisateur. Metteur en scène, ça veut dire qu'il met en scène des pièces de théâtre. Hein. Et là, voilà, donc ça sortira le 18 août 2021. Drive My Car. Bah, c'est l'histoire d'un chauffeur, justement. Hein. Et le chauffeur et puis le client, qui est lui aussi d'ailleurs metteur en scène. Dans l'histoire, justement, ils vont discuter sur la route et ils vont faire face à leur passé. C'est ça, l'histoire de Drive My Car. Ensuite, oula, eh bien, alors, oui, j'avais dit Flag Day aussi, est-ce que j'en ai parlé? C'est un thriller, un biopic de Sean Penn, qui est un réalisateur américain, on le connaît quand même. Il a 60 ans et 10 longs métrages à son actif. C'est une histoire de fausse monnaie. Flag Day, en fait. C'est assez... attention, hein, ça déménage quand même. Normalement, il est prévu pour le 15 décembre 2021. Mais dans ce film, d'ailleurs, il y a Sean Penn, donc il y a le rôle principal, et il y a Dylan Penn, qui est sa fille, dans la vie.
Donc, réalisateur et acteur dans son propre film.
Oui, lui, il a 30 ans. Elle a 30 ans, lui, 60. Voilà, c'est sa fille. Qui est une excellente actrice, qui est déjà assez connue, d'ailleurs, aux États-Unis. Ensuite, on avait Le Genou d'Aed, qui a été retenu, qui sort prochainement. Là, je n'ai pas eu de date, c'est un drame, de Nadav Lapid, qui est un réalisateur israélien de 46 ans. Il a 6 longs métrages à son actif, lui, cet homme-là. Et puis, ils ont choisi, Haut et Fort. Haut et Fort, c'est musical, hein, c'est dramatique. Ça sort en novembre 2021, on aura le temps d'en parler. Donc, c'est Nabil Ayouch, qui est un réalisateur marocain, franco-marocain d'ailleurs. Il a 52 ans, 10 longs métrages à son actif. C'est l'histoire d'un ancien rappeur, qui est coach de jeunes gens et qui les aide à se libérer du poids de certaines traditions. Il s'agit évidemment du Maroc, bien sûr, puisque ça se passe là-bas. Puis ils ont mis, compartiment numéro 6. Alors c'est un drame qui sort prochainement également, je n'ai pas de date de sortie. C'est de Juho Kosmanen, qui est un réalisateur finlandais. De 42 ans, 4 longs métrages à son actif, lui déjà, Monsieur Kosmanen. C'est un prochainement, hein, je l'ai dit, hein, j'ai pas de date non plus. Ah ben oui, c'est en fait c'est une Finlandaise, c'est l'histoire d'une Finlandaise qui est bloquée dans un compartiment de train. Alors il y a une histoire d'amour assez énigmatique, voilà, ça va être plutôt intéressant. Et puis on a Julie. En 12 chapitres. C'est un drame, c'est aussi de la comédie. Ça sort le 17 novembre 2021. Ce sont les tribulations de Julie, qui va avoir bientôt 30 ans. C'est de Joachim Trier, qui est un réalisateur norvégien de 47 ans, 5 longs métrages à son actif. On a La Fracture aussi qui a été choisie, qui sort prochainement. Là, on n'a pas de date. C'est de Catherine Corsini, qui est une réalisatrice française qu'on connaît, qui fait de très bons films. La Fracture, c'est l'histoire d'un hôpital qui est assiégé. Il y a une manif de Parisiens, il y a des gilets jaunes, tout ça. Et c'est l'histoire également d'un couple au bord de la rupture. Alors, on aura dans les acteurs principaux Marina Foïs et Pio Marmaille, qu'on connaît, qu'on aime beaucoup.
Qui sont très, très bons tous les deux.
Qui sont extrêmement talentueux, absolument. Et puis, ils ont choisi aussi Les Intranquilles. Oui, ça existe, Les Intranquilles. C'est un drame avec Leïla Bekhti dans le rôle principal. C'est Joachim Lafosse, qui est un réalisateur belge, qui est un réalisateur belge qui a 46 ans et 9 longs métrages à son actif. Alors, c'est un film sur la bipolarité. Voilà, Ben, j'allais dire bio, moi je suis bio, alors allez, je me lance dans les bio. Non, là c'est la bipolarité d'un parent dans le couple. Ben, y a un couple et il y en a un qui est bipolaire. Voilà, c'est assez... Alors, oui, c'est un drame, hein, évidemment. Alors, il sort, lui, le 20 octobre 2021. On a mis la date de côté, on en parlera. Et puis, ils ont mis de côté les Olympiades aussi, Paris 13e. C'est un drame, c'est romancé. C'est de Jacques Audiard, qu'on connaît, bien sûr, un réalisateur français. Bah, c'est le fils de Michel. On ne peut pas s'empêcher de le dire à chaque fois, tellement on les aime tous les deux. Son père d'abord, Michel Audiard, mon Dieu, n'est-ce pas, qu'on connaît absolument. Et puis son fils qui fait de très bons films, qui a eu énormément de prix d'ailleurs depuis qu'il est dans le cinéma, cet homme-là. C'est l'histoire de trois filles, un garçon, ça se passe dans le quartier des Olympiades. C'est pour ça que c'est Olympiades, les Olympiades, virgule Paris 13e. C'est un quartier dans le 13e arrondissement, les Olympiades. Il y a trois filles et un garçon. On verra ce qui se passe pour eux, puisque ça sort le 10 novembre 2021. On verra. Le 27 octobre, j'avais dit. Hein. Oui, c'est ça, pardon. C'est le 27 octobre 2021. Oui, avant Les Intranquilles, ouais, le 20 octobre. Okay. Tout ça, c'est en octobre. Ensuite, ils ont gardé Linguille, les liens sacrés. C'est un réalisateur tchadien, Mahamed Saleh Haroun, qui l'a réalisé il a 60 ans. Il a déjà 14 longs métrages à son actif. C'est un drame. Lengui, les liens sacrés. Ce sont des acteurs tchadiens, d'ailleurs, dans le film. C'est l'histoire d'une ado qui est enceinte et qui ne veut pas du bébé. Et oui, alors, il y a une histoire avec ses parents, avec sa maman. Elle va se retrouver dans un combat, quand même. Pas très facile, Lengui. Ce sera sûrement un très beau film. Et puis, ils ont sélectionné Memoria, qui sort prochainement. Là, je n'ai pas de date. C'est un film de, attention, Apichapong, il est thaïlandais, hein. Verask Kakul, c'est un réalisateur thaïlandais. Et alors là, il a un nom qui est très long. Bon, on arrive à le prononcer quand même, mais il a 50 ans, Apichapong, et il a 22 longs métrages à son actif. Alors, c'est un drame, et c'est historique d'ailleurs aussi. Memoria, il y a Tilda Swinton dedans, il y a Jeanne Balibar, on la connaît, Jeanne Balibar. Et puis c'est l'histoire d'une horticultrice, il y a une archéologue aussi dans l'histoire. Alors elle, l'archéologue est française, l'horticultrice, elle est thaïlandaise, voilà. Il y a aussi un jeune musicien dans cette histoire qui est colombien. Et il y a une écossaise. Enfin, voilà. Je pense que ça va être assez fascinant comme film, Memoria. Alors ensuite, ils ont mis de côté Nitram, prochainement, hein, la sortie. Je n'ai pas de date. C'est un drame historique. C'est l'histoire de la tuerie de Port Arthur en Tasmanie, qui s'est déroulée en 1996. C'est un film de Justin Kurzel, qui est un réalisateur australien de 46 ans, 8 longs métrages à son actif, Nitram. Ah oui. Il y a Anthony Lapaglia qui joue dedans. On le connaît, Anthony Lapaglia, parce que on le voit dans... Enfin, si vous regardez les séries, mes chéris, on le voit dans des séries policières. Il est très axé là-dessus, cet acteur. Et on a dans le... Et puis, oui, voilà, il y a Judas III, bon, dedans. Dans les rôles principaux. Ensuite, ils ont mis de côté France. Ah oui, ça s'écrit comme France. C'est France. C'est une comédie. C'est le portrait d'une femme journaliste de télévision. Et d'un pays, c'est-à-dire le nôtre, puisque c'est France, et d'un système. Et là, on parle des médias. Donc, ça va être une comédie un petit peu grinçante, ça c'est possible, avec Léa Seydoux et Benjamin Biolay dans les rôles principaux. Ça sort le 1er septembre 2021, ça se rapproche. Et c'est de Bruno Dumont, qui est un réalisateur français de 63 ans, 13 longs métrages à son actif. Ensuite, ils ont sélectionné les Petrov, la grippe, etc. C'est un drame, c'est fantastique. Ça sort prochainement, je n'ai pas la date. C'est une journée dans la vie d'un auteur de bande dessinée et de sa famille dans la Russie post-soviétique. C'est donc, c'est le titre, c'est assez marrant quand même. Les Petrov, virgule, la grippe, virgule, etc. C'est de Cyril Serbrannikov, qui est un réalisateur russe. Il a 51 ans, il a 80... Non, il a... Oui, c'est ça, il a 50. Il a 9 longs-métrages à son actif, cet homme-là. Il est connu en Russie parce qu'il fait beaucoup de... En fait, il fait pas mal de drames, de fantastiques assez. Voilà, donc bah, il faut croire qu'en Russie, on aime bien le fantastique. Mais en France aussi, il n'y a pas de raison. Ensuite, on a Red Rocket, qui est un drame et qui est aussi une comédie, d'ailleurs. C'est prochainement, hein, je n'ai pas la date, il n'y avait pas encore de date fixée. C'est le retour d'une ex-star du porno dans sa petite ville du Texas. Et ça ne plaît pas à tout le monde, ce retour. On s'en doute. Voilà, au Texas, Red Rocket. C'est de Sean Baker, qui est un réalisateur américain de 50 ans. 7 longs métrages à son actif. Ensuite, on a The French Dispatch, qui a été mis de côté, avec Cécile de France et Timothée Chalamet dans les rôles principaux. C'est un, en fait, c'est un recueil d'histoires. C'est un, voilà, c'est un recueil qui a paru d'ailleurs dans un magazine américain, dans le dernier numéro d'un magazine américain, dans une ville française fictive du XXe siècle. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est ça l'histoire. Et c'est de, Wes Anderson, on le connaît, un réalisateur américain. Voilà. Oh bah oui.
Il fait toujours des films un peu en décalé.
Ah oui, oui, ouais. Lui, oui, tout à fait, tout à fait. Ben c'est toujours de la romance, c'est de la comédie, c'est de l'histoire aussi. Il aime bien ça. Et c'est un film, attention, qui a été tourné à Angoulême.
Ah oui.
Ah mais oui. Et mais oui. Alors on a Léa Seydoux également d'ailleurs. J'ai parlé de Cécile de France. Il y a Léa Seydoux, il y a Mathieu Amalric, il y a Bill Murray, voilà, dans les rôles principaux. Alors Wes Anderson, lui, il a 11 longs métrages à son actif. On le connaît, il fait de jolies choses. Ouais, puis ils ont sélectionné Titan également, qui sort. Ah, attention, The French Dispatch sort le 27 novembre 2021. Donc on en parlera. Alors prochainement, on a Titan, je viens de le dire, c'est un drame fantastique également, décidément. Et c'est plus fantastique que dramatique en fait. Enfin, il y a dedans Dominique Fraud. Ah, mais Dominique Fraud, c'est la sœur cadette de Catherine Fraud. Elles ont un an d'écart, d'ailleurs, je crois, de notre grande actrice Catherine Fraud. Oui, il y en a une qui a 63 ans, et deux ans d'écart, et l'autre 65. Voilà, c'est sa sœur cadette qui est dedans. Et il y a Vincent Lindon aussi, qu'on aime énormément. Et ça, c'est Julia Ducournau, qui est une réalisatrice française. On est contente, on est content, pardon, de la voir, elle, justement. Elle a 37 ans, elle a déjà 4 longs métrages à son actif. Et en 2017, on avait eu droit à son film Grave, parce que c'est français, je ne sais pas pourquoi je dis avec l'accent anglais, non, c'est Grave, à force. Hein. Et c'était sa première œuvre cannibale. On en avait parlé quand même, hein. C'était un film assez... C'est du drame et de l'épouvante qu'elle avait fait là, à ce moment-là, et qui a très très bien marché. Son film a vraiment très très bien marché. Et c'est vrai que c'est une première œuvre de cannibale, tout à fait. Julia Ducournau. Ensuite, ils ont mis de côté Trepiani, c'est parce que c'est italien. Oui, c'est Nanni Moretti, c'est pas n'importe qui. Hein. 67 ans, 19 longs métrages à son actif. Alors, il est dedans, c'est son grand retour, hein, Nanni Moretti. On est content quand même, hein, parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Ça sort le 27 octobre 2021. Et en fait, il avait eu, en 2001, cet homme-là avait eu quand même la Palme d'Or pour La Chambre du Fils, qui était un très, très beau film. Là, c'est l'histoire de 3 familles qui vivent dans le même immeuble. Il aime ça. Voilà, c'est son truc, ça. Mais ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'on ne l'avait pas vu, Nanni Moretti. Et oui, puisque La Chambre du Fils, je l'ai dit, c'était 2001. Alors, on a, à l'époque, La Chambre du Fils, je ne sais pas si vous vous souvenez, chérie, c'était avec Laura Morente. Il y avait Nanni Moretti aussi, Laura Morente, qui est une très, très grande actrice, hein, qui a pas mal joué avec Nanni Moretti. Il nous tarde de le voir, celui-là. Ouais, vivement le mois d'octobre. Tout s'est bien passé, ça c'est un autre titre. C'est une comédie dramatique qui est retenue justement pour concourir. C'est de François Ozon. Oh bah lui alors on le connaît vraiment, François Ozon, réalisateur français, 53 ans, 24 longs métrages à son actif. Alors ça c'est l'histoire d'une, c'est l'euthanasie en fait. Hein. Le thème c'est l'euthanasie. C'est une fille qui doit aider à mourir, qui doit aider son père à mourir, qui a 85 ans, qui a fait un AVC très très grave et qui ne veut plus vivre, bien sûr. Voilà. Alors ça sort le 27 octobre 2021. Le 22. Non, 27 octobre, c'était Nanni Moretti. Non, c'est 22 septembre. 22 septembre, tout s'est bien passé. Voilà, donc ça va certainement être très beau, mais certainement aussi assez dramatique, hein, avec André Dussolier dans le rôle principal. Et puis, alors le dernier qui a été mis de côté pour concourir, c'est un héros. Ça s'appelle un héros, c'est un thriller. Voilà, ça sort le 22 décembre 2021. C'est donc c'est Asghar Farhadi. On a déjà parlé de cet homme-là. Hein. Réalisateur iranien. Il a 9 longs métrages à son actif. Il a 49 ans. Et il y a sa fille aussi qui joue dans son film. Elle s'appelle Sarina Farhadi. Elle a 22 ans et elle joue dans son film un héros. Alors c'est l'histoire de quelqu'un qui est en prison pour dette. C'est un homme, voilà. Et il va essayer de négocier avec ses créanciers. Parce qu'en fait, il est en prison pour dette, ce qui n'existe pas en France, hein, la prison pour dette. On n'a pas ça. Mais là-bas, en Iran, si. On peut aller en prison pour dette. Et après, négocier, ce n'est pas vraiment facile. Eh oui. Trépiani, au fait, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, le film italien, Trépiani, ça veut dire 3 étages. J'avais regardé quand même parce que je ne voyais pas ce que ça pouvait donner. Eh bien si, puisque c'est l'histoire de 3 familles dans le même immeuble, donc il y a 3 étages. Voilà, Trépiani, je voulais le rajouter ça quand même. Voilà. Et Titane, au fait, quand j'ai parlé de Titane tout à l'heure, mais c'est quoi le Titane? C'est pour ça, c'est l'histoire ça. C'est un métal, hein, le titane, qui est hautement résistant à la chaleur et à la corrosion. Et donc, avec, on fait surtout des... Comment ça s'appelle pour quand quelqu'un veut changer une jambe, remplacer une jambe?
Des prothèses.
Merci. On fait des prothèses avec le titane. Ça explique un peu quand même le titre du film Titane dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. J'avais mis ça de côté, Titane. Bien, ça, c'était... ceux qui ont été choisis pour concourir pour la Palme d'Or.
Et donc là, c'est dans la compétition officielle.
Tout à fait.
Et il y a aussi, en parallèle, la quinzaine des réalisateurs.
Tout à fait. Il y a aussi la séance de minuit. Bon, ça, ah on oui. l'avait mise de côté. Ça, c'est pour... là, on aura Orange Sanguine, au pluriel.
Alors, ça, c'est dans quel cadre?
Ça, c'est dans la séance de minuit.
La séance de minuit.
C'est une comédie, c'est du drame aussi. C'est prochainement, je n'ai pas de date. C'est le deuxième long-métrage de Jean-Christophe Meurice, qui est un réalisateur français. Et dans le film, on a Denis Podalydès et Lilith Grachung. Donc ça, déjà, ça s'annonce bien. Ben, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui sont en France. Il y a un couple qui est de retraité, qui est très surendetté. Il y en a un aussi qui essaie de remporter un concours de rock. Il y a un ministre qui est soupçonné de fraude fiscale. Oh non, c'est pas possible ça, si? Ah bon, d'accord. Il y a un jeune ado aussi qui rencontre un détraqué sexuel. Une jeune ado. Et voilà. Alors, il y avait quand même titré « La nuit sera longue, les chiens sont lâchés ». Pour la séance de minuit, si vous êtes dans le coin là-bas à l'époque, entre le 6 et le 17 juillet, mes chéris, si vous pouvez aller voir la séance de minuit, je pense que ça va chauffer. Et puis, il y a Cannes Première. Cannes Première, c'est une nouveauté. Mais c'est quoi Cannes Première? C'est consacré à des cinéastes confirmés qui ne concourent pas. Voilà, c'est tout nouveau. Hein. Ça fait partie de... Voilà, on a Serre-Mois Fort. Alors, pour les dates, on ne sait pas trop. Serre-Mois Fort, c'est de Mathieu Amalric, hein, réalisateur français, acteur hein, également. Serre-Mois Fort qui sort prochainement, on ne sait pas, je n'ai pas de date. Elle est partie, elle a laissé mari et enfant, ou alors l'inverse. Point d'interrogation, on ne sait pas. Ensuite, on a Cow. C'est un documentaire aussi qui est présenté à Cannes Première, qui sort prochainement, on ne sait pas trop. Andrea Arnold, c'est un réalisateur britannique. Il a 60 ans. 6 longs métrages à son actif. C'est un portrait du quotidien, attention, de 2 vaches. Parce que Cow, ça veut dire vache. Voilà, donc c'est un documentaire, mais qui est choisi justement pour Cannes Première. Cette musique ne joue pour personne, c'est un autre titre, pardon. C'est une comédie romancée qui sort le 1er septembre de Samuel Benchetrit, qui est un réalisateur français de 47 ans, 7 longs métrages à son actif. Ben, c'est quoi ? C'est la vie de plusieurs personnes qui sont isolées, qui sont habituées à la violence au cœur d'une ville portuaire. Alors, le théâtre, la poésie et l'art bouleversent leur vie et l'amour transforme leur quotidien. Joli ! Ça doit être, ce sera certainement très joli, ça. Alors, lui, il sort cette musique « Ne joue pour personne », c'est le 1er septembre 2021. Ah ben, je l'avais dit, je crois. Ensuite, on a Tromperie. Tromperie, ça sort le 22 septembre 2021. C'est un drame romancé. C'est de Arnaud Desplechin, qu'on connaît absolument, réalisateur français de 60 ans, 16 longs métrages à son actif, celui-là, avec Denis Podalydès encore. Mon Dieu, mais on ne va voir que lui, Denis Podalydès. Et tant mieux, et tant mieux. Elle est assez douce également. Ça fait plusieurs fois que je la nomme aussi, elle. Elle a le vent en poupe et assez doux, mais elle a un tel talent. En même temps, bon, c'est pas non plus, c'est pas très étonnant. Et puis on a, ils ont mis de côté pour Cannes Première, donc Jane, c'est Jane quand même. Hein. Jane par Charlotte. C'est un documentaire sur Jane Birkin, bien sûr, et qui est réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg. Ça sort prochainement. Jane Birkin. Eh oui, on aime beaucoup Jane Birkin. Eh oui, beaucoup de talent. Et puis, il y avait aussi, alors ils ont retenu pour Cannes Première, In Front of Your Face, en face de ton visage, ça sort prochainement. C'est de Hong Sang-soo, qui est un réalisateur coréen de 60 ans, 28 longs métrages à son actif. Charlotte Gainsbourg, au fait, c'est son premier film.
En tant que réalisatrice.
Oui, c'est le premier, mais elle ne concourt pas, mais elle est à Cannes Première. C'est joli, ça. C'est déjà pas mal. Et puis, pour finir, il y avait Nothing Sunday de Eva Husson. Oui, qui est une réalisatrice française. Ça sort prochainement. C'est un drame, romance, historique, voilà. En fait, ça se passe en 1924. C'est la saga de la famille Niven. Ensuite, on a Évolution. De Conrad Mundruczó, qui est un réalisateur hongrois de 46 ans. Il a 11 longs métrages à son actif. Ça sort prochainement. Là, nous n'avons pas de date. C'est 3 générations de personnages voilà, qui sont confrontés pardon, à l'Holocauste, à la mémoire et au passage du temps. Et puis on a Val, un documentaire sur Val Kilmer. On le connaît, Val Kilmer, hein, qui est un acteur américain de 61 ans. Alors lui, il a joué dans 89 longs métrages quand même. Et oui, et c'est un documentaire de Ting Pu et de Leo Scott, qui sont 2 réalisateurs américains prochainement. Et puis le dernier, le documentaire qui est mis de côté pour Cannes Première, JFK, Revisited, Through the Looking Glass. C'est un film de Oliver Stone, réalisateur américain qu'on connaît, 74 ans, 29 longs métrages à son actif. Et la date de sortie, là, c'est même pas prochainement, c'est qu'elle est inconnue. J'avais voulu quand même le noter parce qu'il va passer à Cannes Première, mais bon, c'est pas... voilà, on ne sait pas trop. Et puis, voilà, il y a aussi un certain regard. Un certain regard, c'est une... En fait, c'est la rencontre. La catégorie Certains regards, c'est une rencontre sur un jeune cinéma d'auteur, en fait. C'est ça, Un certain regard. Alors, c'est toujours intéressant pour, effectivement, les jeunes réalisateurs qui arrivent là et avec leurs œuvres, c'est très intéressant pour eux, Un certain regard, cette catégorie. Alors là, on va les dire assez rapidement. En Money Boys, voilà, de Yilin Chenbo, c'est un réalisateur autrichien. On a Blue Bayou de Justin Chon, réalisateur américain. On a Freda de Jessica Genus, qui est un réalisateur haïtien. On a Delo d'Alexei German Jr., réalisateur russe. On a Bonne Mère de Afsia Herzi, qui est une réalisatrice française. On a Noche de Fuego, la nuit de feu, de Tatiana Hueso, qui est un réalisateur mexicain. On a Lambe, drame, fantasy, voilà, de Vladimir Johansson, qui est un réalisateur islandais. Il a 38 ans. Ils sont tous très jeunes, hein, quand même, là. Évidemment, puisque c'est fait pour eux, un certain regard. On a Compartment Hassan, de Hassan Sermin Kaplanoglu, qui est un réalisateur turc. On a After Young, de Yago Natta, qui est un réalisateur américain. Et avec Colin Farrell, quand même, là, After Young. Ça va être intéressant. C'est de la science-fiction, en fait, hein, After Young. Et Il y eut un matin, ça c'est le titre, c'est un drame, de Eran Kolirin, qui est un réalisateur israélien. Et qui, là, je n'ai pas de date. Hein, c'est tous, c'est des dates, c'est prochainement. Voilà. Donc ce sera probablement, peut-être fin 2021, et en tout cas 2022, probablement. Il y eut un matin, oui. Les points desserrés. De Kira Kovalenko, qui est une réalisatrice. Oh, Kira, réalisatrice russe, c'est le portrait d'une jeune fille qui est coincée entre son père et ses frères. On imagine ce que ça peut donner. Il y eut un matin. Et puis Il y eut un matin, c'était Eran Kolirin. Les points desserrés, voilà. Et puis Woman Do Cry. C'est un drame de Mina Mileva, qui est une réalisatrice, productrice bulgare. Et elles sont deux, d'ailleurs. Il y a Vesla aussi, Kaskanova, qui est une réalisatrice bulgare. C'est une co-réalisation, Women Do Cry, Les Femmes Pleurent. Eh oui. Et Rehana Mariam Nour, ça c'est le dernier, choisi pour un certain regard, de Abdullah Mohamed Saad, qui est un réalisateur bengali. Il est du Bangladesh. C'est son deuxième long métrage. Tous, la plupart, hein, ils ont très peu de long métrage derrière eux, puisqu'il y en a même pour qui c'est un premier film. C'est un certain regard, un jeune cinéma d'auteur. Eh oui. C'est très... Ah, ben, il y a aussi hors compétition. J'ai des hors compétition de son vivant. Emmanuelle Berco, réalisatrice française. Il est, hors compétition. Catherine Deneuve, Benoît Magimel, dans De son vivant. C'est un drame qui sort le 24 novembre 2021. On a Emergency Declaration aussi, de Han Jae Rim, qui est un réalisateur coréen. Et on a The Velvet Underground, qui est un documentaire musical sur un groupe de rock, Velvet Underground.
Des années 60.
Voilà, c'est ça, exactement ça. Là, je n'ai pas de date, c'est prochainement. Todd Haynes, qui est un réalisateur américain. Voilà, c'est donc un focus sur le groupe, hein, de rock new-yorkais. Tu viens de le dire, des années 60. Ensuite, ils ont mis de côté Back North. C'est un thriller de Cédric Jiménez, qui est un réalisateur français. Il y a Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos dans ce film. Ça fait
aussi François Civil, il me semble, dedans.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors lui, il sort le 18 août. Oh, c'est bientôt le 18 août 2021. On a hâte de voir ce film de Cédric Jiménez, je viens de le dire. Bac Nord, c'est la brigade de terrain et qui cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Et ça se passe dans le quartier nord de Marseille. Bac Nord.
Ça n'a pas l'air d'être un des films les plus rigolos de cette année.
Peut-être pas. Ensuite, on a Aline. C'est un drame, il y a de la comédie.
Enfin, il va sortir.
Voilà, c'est l'histoire de Céline Dion, évidemment, à travers Aline Dieu. Parce qu'évidemment, ils ont changé le nom. Elle a changé le nom, c'est Valérie Lemercier, réalisatrice française et actrice, on la connaît. Oui, elle a...
mais du coup, j'avais entendu un reportage où Céline Dion disait, mais pourquoi elle n'a pas appelé ça Céline ?
Et non, c'est Aline, Aline Dieu, d'ailleurs, elle a changé le nom. Mais il s'agit de Céline Dion, effectivement, qui sort le 10 novembre 2021. Alors, mes chéris, pour les fans, les grands fans de Céline Dion, franchement, il va falloir mettre cette date de côté. Voilà. Et puis, pour finir, c'est Stillwater. C'est un film de Tom McCarthy, qui est un réalisateur américain. C'est un drame, c'est un thriller. Il y a Matt Damon quand même. Hein. Et Camille Cotin. On aime, nous, Camille Cotin. Et oui, c'est une comédienne française qu'on aime beaucoup. C'est l'histoire d'un père qui arrive à Marseille, de l'Oklahoma. Sa fille purge une peine de prison pour un crime qu'elle nie avoir commis. Il vient la soutenir. Là, j'allais dire la sauver. C'est ça aussi. Voilà. Ça, c'était pour les hors-compètes. Hors-compètes. Eh oui.
D'accord, donc un programme chargé.
On a fait un sacré tour, là.
Y a-t-il d'autres choses à dire sur Cannes ?
Eh ben non, c'est tout, là. Je trouve que c'était déjà pas mal. Effectivement, ça, on l'a su le 3 juin. Alors évidemment, je me suis précipitée, moi, sur les résultats. Je voulais absolument vous donner les titres. Parce que maintenant, vous allez pouvoir y réfléchir. Bon, il y aura le podcast, je suppose, pour que les gens puissent retrouver les titres, oui. Et puis faire vous-même votre choix avant le 6 juillet, enfin du 6 au 17. Donc avant cette semaine de juillet au Festival de Cannes, vous pourrez vous-même faire votre sélection, vous amuser et voir si vous avez gagné en fait. Et oui, vous pouvez parier entre vous et voir celui qui gagnera 3 haricots ou 4 haricots. On ne joue pas d'argent, hein. On est d'accord. Allez, des haricots. Non, des fraises, tiens. Ah oui, des fraises. Un panier de fraises. Vous pariez un panier de fraises. S'il y a au moins un de vos films choisis qui se retrouvera au Festival de Cannes entre le 6 et le 17 juillet. Voilà.
Mais en attendant, il y a des films qui sortent aujourd'hui cinéma. Enfin, hier, ils sont sortis hier. Dont un premier qui a été récompensé aux Oscars.
Oh là là.
Notamment. Film de Chloé Zhao, c'est le film avec Frances McDormand, Nomadland.
Eh oui, Nomadland, oh là là, dont on a déjà parlé quand même, beaucoup, hein. C'est, Oscar de la meilleure réalisatrice, Oscar de la meilleure actrice. C'est un drame américain, il dure 1h48 après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait. Fern, c'est le nom de l'héroïne, décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent leurs camarades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. Eh oui, Chloé Zhao, mais oui, elle a fait un film formidable, c'est certain. C'est une réalisatrice, scénariste, productrice chinoise. Elle fait de très très beaux films. Mais là, évidemment, c'est le number one. Alors, c'est titré d'ailleurs saisissant d'humanité et de poésie, un film rare, un road movie à la beauté foudroyante. Tu l'as dit à Frances McDormand, qui elle est extraordinaire. Alors là, si un Oscar a été mérité une fois, celui-là, il l'est vraiment. Elle joue d'une façon extraordinaire, c'est à peine croyable. Elle est Fern, voilà, elle est l'héroïne, c'est elle. On ne pense plus à l'actrice, mais c'est elle, quoi, absolument. Il y a David Straten aussi dans le film, il y a Gay DeForest, il y a Linda May, Angela Reyes dans les rôles principaux. On ne va pas en dire plus parce qu'on a déjà énormément parlé et que c'est un film sublime, mes chéris, franchement. Celui-là est à voir quand même, hein. Vraiment. Bon, si vous le ratez au cinéma, vous pourrez vous rattraper après. Bon, j'aime pas trop dire ça parce que moi, je préfère qu'on aille dans les cinémas de proximité, évidemment. Mais après, on peut se rattraper et trouver les DVD assez rapidement. Si on a vraiment raté pour une raison ou pour une autre, ça peut arriver quand même, hein. Mais il faut quand même l'avoir, quoi. Il faut le voir et l'avoir après. Nomadland.
Donc Nomadland, un autre film qui sort aujourd'hui, qui devait sortir au printemps dernier.
Oui.
C'est le dernier film de Laurent Tirard qui s'appelle Le Discours.
Le Discours, comédie française.
Oui, de très bons acteurs français.
Pardon. Oui. Ah oui, oh, bah,
bon
oui.
Menu.
1h28, ils sont tous connus. Oh bah oui, Benjamin Laverne. Sarah Giraudeau. Je donne les noms d'abord parce que tu en parles, donc ça vaut le coup. Julia Piaton. C'est la fille de qui, Julia Piaton? De Charlotte.
De Charlotte de Turckheim.
Yes! Tu as gagné la barquette de fraises. Ok. Dont je parlais. François Morel, Guylaine Londez, Sébastien Chassagne, Laurent Bateau, Sarah Succo, Kayan Kojandi. Enfin, on les connaît tous de toute façon. Ça, c'est clair. Alors, c'est quoi? Ah oui, alors donc, il fait partie de la sélection officielle Cannes 2020 et de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Il a fait les deux, hein. Il fait partie des 10 films qui ont fait Cannes 2020 et l'Alpe d'Huez en 2021. Il y en avait 10. Eh ben, il est dedans, Le Discours. Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude. Maman resserre le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Ouais. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son SMS et mette fin à sa pause ou à la pause qu'elle lui fait subir depuis un mois. Ah, mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage. Oh putain, il ne l'avait pas vu venir celle-là. Ah, c'est ce qui est écrit dans le synopsis. Ce n'est pas de moi. Je dis ça parce que Damien a sursauté quand j'ai dit le premier « oh pétain ». L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver? Point d'interrogation. Là, en fait, c'est donc, on l'a dit, Laurent Tirard, tu l'as dit, réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Il a 54 ans, il a 21 ans de carrière, il a 20 tournages à son actif, il a eu des prix, des nominations... pas mal, quoi. Il a eu, entre autres, le Grand Prix de la vidéo et de la VOD en 2011, voilà. Ah oui, on lui doit également Le Petit Nicolas, qui était sorti en 2009 avec Valérie Lemercier et Cadmerade, qui jouaient les parents. C'était le prix de la meilleure vente de films français qu'il avait eu, d'ailleurs, pour Le Petit Nicolas. Qui est très chouette, d'ailleurs, hein, avec Cadmerade et Valérie Lemercier. C'était très... Alors, la séquence du repas, parce que le repas va être très important, cette séquence, elle a quand même nécessité 15 jours de tournage. Ça, c'est dans ce qu'on nous dit par rapport aux détails. Voilà. C'est donc c'est Laurent Tirard qui le dit, ça, qui en parle, justement. Hein. 15 jours de tournage pour le repas. Alors, Laurent Tirard, le réalisateur, a qualifié Le Discours de deuxième premier film. Il dit, parce qu'il nous dit, cela faisait un moment que je cherchais à faire un film où je remettrais les compteurs à zéro, où j'allais essayer des choses, prendre des risques et dans une économie raisonnable de production, contrairement à des films énormes comme Astérix et Obélix, effectivement, au service de Sa Majesté. Il révèle d'ailleurs que le film a été difficile à vendre. On parle de notre film là, hein, du discours. Il a été donc difficile à vendre auprès des gros distributeurs avec lesquels il est habitué à travailler. Et que c'est grâce à l'enthousiasme de Jean Labbadie du Pacte que le projet s'est fait. Alors c'était, évidemment, ça coûte nettement moins cher que son film effectivement, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Là, il n'y a pas eu de souci pour la distribution et pour la production. Mais là, malheureusement, il y a eu un souci de distribution pour un film qui a coûté beaucoup moins cher et qui lui tient à cœur, effectivement. Puisque quand on dit c'est mon deuxième premier film, ça veut tout dire. Voilà, ben pour les, oui, alors c'est ça, je disais, pour les séquences à table, donc il a effectivement, ça a duré 15 jours, parce que Benjamin Laverne, par exemple, excusez-moi, se tourne pour parler face à la caméra, et il est en pleine conversation. Alors, le réalisateur ne voulait pas refaire ses prises en post-synchro, parce que le procédé sonne toujours faux en fait, après, si on recommence, enfin, selon lui, hein, selon le réalisateur. Donc, ça a été, c'était assez incroyable, ce tournage de la, du quatrième mur, briser le quatrième mur, comme il nous dit. Voilà le discours.
Le discours donc de Laurent Tirard, qui est sorti hier. Un autre film de...
À voir, hein. Oh oui, le discours à voir, franchement, un régal.
Un film de Peter Doruntzis qui s'appelle Vaurien.
Oui, Vaurien, c'est un thriller, un drame français. Ça dure 1h35, c'est de Peter Doruntzis, qui est un réalisateur scénariste français. Il a 38 ans. Vaurien, c'est son premier long métrage. Avant, on lui doit quand même 3 courts métrages, hein, en 2014 et 2015. Il s'est fait la main sur des courts-métrages. Alors, c'est en fait, ce film faisait partie de la sélection de 2020, hein, de Cannes 2020. Jay, c'est le nom du héros, débarque en ville sans un son, avec pour seule arme son charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir et tuer. Oui, ça finit moins bien. On aimait bien travailler, aimer, dormir, c'était joli, mais tuer aussi. Jay. Alors Jay, c'est Pierre Deladonchamp. Ah, alors on adore cet acteur, évidemment. Ça marche fort pour lui, tant mieux. Il est très doué. Ils sont tous très bien, d'ailleurs. C'est un beau casting. Ophélie Beau, on a Sébastien Oubani, on a Candide Sanchez, Samuel Churine, on a Axel Grande-Berger et Ina Chantier dans les rôles principaux. C'est un sacré film quand même, hein. Vaurien. Alors en fait, c'est son premier long métrage, donc je l'ai dit. Alors il a mûri ce projet pendant à peu près une vingtaine d'années quand même, hein, pour s'assurer de trouver le bon angle et ne pas glorifier son héros. Ben oui, parce que glorifier un tueur, c'est quand même toujours un petit peu embêtant. Alors il nous dit que Jay n'est pas l'archétype du tueur en série américain, c'est pas ça du tout. Il est plutôt façon le silence des agneaux, voilà. Il nous dit, ou alors Seven aussi, qui était sorti en 1996 avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Et c'est un, en fait, le silence des agneaux, on connaît ça, hein, c'était sorti en 1994, je crois, avec Anthony Hopkins et Judy Foster. C'est un film qui a été repris en 2020. Alors moi, je vais vous faire un aveu, mes chéris. Le silence des agneaux, je n'ai jamais pu le regarder en entier. J'ai tout essayé au cinéma. Je suis sortie avant la fin, à l'époque. J'ai acheté, évidemment, le DVD pour me prouver que j'étais courageuse. Eh bien, je ne l'ai toujours pas regardé jusqu'au bout. Le silence des agneaux. Je vais peut-être pouvoir maintenant. Il s'est passé pas mal de temps. Je vais réessayer. Anthony Hopkins me fiche une trouille dans ce film. Incroyable. Voilà, donc là, on est donc plutôt, avec ce tueur, on est plutôt là-dedans, hein, quand même. On est là-dedans, ou dans Seven. Alors Seven, c'était assez terrible. Ça, par contre, on le regarde jusqu'au bout. Mais Seven, c'était quand même un film... la fin est terrifiante. Enfin, tout le film est terrifiant, d'ailleurs. Enfin, voilà. Alors, du coup, on se dit quoi ? C'est un polar ou c'est un thriller ? C'est pas la même chose, hein. Alors lui, Peter Doruntzis, il nous dit que c'est un film de mauvais genre. Voilà, c'est tout. Un polar, c'est quand on est du point de vue de la personne dangereuse, il nous dit, voilà. Généralement des hommes, des gangsters. Un thriller, c'est quand on est du point de vue de la personne vulnérable. C'est pas du tout pareil. On est de l'autre côté. Donc c'est un polar, mais à l'intérieur des séquences où Jay rencontre des femmes qui l'attaquent, c'est un thriller. Je voulais aussi sortir des clichés du genre, m'éloigner du cinéma d'hommes dont j'ai enlevé toute l'enquête de police, ce qui m'a libéré de la place pour ajouter de l'humour et des séquences de bavardage, d'anecdotes et d'histoires drôles qu'on se raconte. C'est pas un film ordinaire, hein, ça. Alors là, du tout, hein. C'est vraiment quelque chose. Alors Pierre Deladonchamp, lui, il avait déjà joué un criminel. Il n'y a pas très longtemps, en 2018, un film dont on a parlé ici, Les Chatouilles. Dans Les Chatouilles, avec Karine Viard et Clovis Cornillac. et plus particulièrement un pédophile qui est longtemps passé entre les mailles du filet du fait de son physique séduisant et de son statut social. Donc, Pierre de la Donchamp s'en sort évidemment beaucoup trop bien. Et oui, parce que c'est un habitué de ce genre de film. Ah oui, Les Chatouilles, c'est un film qui fait froid dans le dos. Parce qu'effectivement, le coupable, le saligo, a un charme fou et il a une position sociale tout à fait correcte. Ça fait frissonner encore plus, quoi. La pédophilie à ce stade, c'est terrifiant. Et il avait fait ça très bien. Hein. Il est formidable dans Les Chatouilles, effectivement. Voilà, donc le réalisateur dit qu'il n'a pas voulu piéger le spectateur dans des séquences d'agression. Voilà, il a plutôt choisi d'être du côté des victimes. C'est là que ça devient un thriller, effectivement. Et il voulait faire en sorte, en fait, que le spectateur ressente leur souffrance. « Je pense, dit-il, que le spectateur s'attend à découvrir un film de tueur en série, à comment un homme viole et assassine des femmes, etc. Mais je les emmène ailleurs. Je supprime la violence explicite, je lui fais ressentir l'angoisse des victimes et je lui propose un tueur, il parle de spectateur là, qui n'entre pas tout à fait dans les codes de virilité. J'avais envie de prendre ce risque-là. » Voilà, vaut rien. Voilà pourquoi c'est un film qui vaut absolument la peine d'être vu. Tout à fait. Vaut rien.
Vaut rien, donc, de Peter Doncic.
Oui.
Et nous continuons maintenant avec un film de Mamadou Diaye qui s'appelle Mamadou Dia. Ça oui. S'appelle Le Père de Nafi.
Le Père de Nafi, c'est un drame sénégalais qui dure 1h47. Oui, Mamadou Dia, c'est un réalisateur scénariste sénégalais. Il a 29 ans. Il a fait un très joli film, là. C'est un des films phares du festival Vue d'Afrique. Et ça veut dire quelque chose, hein, quand même, ça a une signification. Bien alors, à cause du Covid-19, le grand rendez-vous des films africains en Amérique du Nord s'est transformé en édition numérique, évidemment. Alors, le réalisateur, qui est lauréat du Léopard d'Or, y montre sa fiction tournée en polar sur le basculement d'une petite ville sénégalaise dans l'extrémisme religieux. Dans une petite ville du Sénégal, justement, deux frères s'opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde s'affrontent, l'une modérée, l'autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. À la manière d'une tragédie, et alors que s'impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour s'émanciper des conflits des adultes. Il a été présenté dans plusieurs festivals, ce film. On a Saïkou Lod, Alassane Sy dans les rôles, Penda Dali Sy, Aïcha Tala. Ce sont des acteurs sénégalais qui sont connus chez eux. Et c'est un très beau film. Qui fait un peu peur aussi, finalement. Ça fait toujours un peu peur, ces histoires de terrorisme. Et puis le Covid-19 qui s'est greffé là-dessus. Effectivement, c'était pas évident, là. Le Père de Nafi. Moi, je le conseille, en tout cas. Et puis, j'avais quoi, alors ?
L'instant présent de Florian Essick.
Ah oui, L'instant présent, c'est un drame français. Oui, Florian Essick, c'est un réalisateur scénariste acteur français, il a 34 ans, il a 10 ans de carrière, 6 longs métrages à son actif, un court métrage. Il a été acteur également entre 2010 et 2021. Il a participé à 18 tournages. Et voilà, c'est dans tous les genres, hein, tous genres confondus en fait. C'est un acteur qui peut tout faire, même réaliser un film justement. C'est son sixième après une chute de cheval qui l'a plongé dans le coma durant près de 10 années. Joshua revient aux écuries qu'il a si bien connues. Accueilli par Mario et Alice, il ne reconnaît rien ni personne. Durant toute cette journée, ces derniers vont tout tenter pour faire renaître quelques souvenirs dans la tête de celui dont ils ont été si proches, mais qui, aujourd'hui, semble être un parfait étranger. L'instant présent, 1h23, je ne sais pas si je l'avais dit. Florian Essig a le rôle de Joshua, le réalisateur. On a Martin Lamotte. Ah, qu'on aime Martin Lamotte. Il a tellement de talent, cet acteur. On est content de le voir, là, qui joue Mario. Et on a Alice Rocoul qui joue Alice. C'est pareil, elle est, on la connaît. Quand on la voit, on la reconnaît. Et elle a beaucoup de talent. C'est un joli casting, sympathique. L'instant présent. Eh oui.
Après, tu nous proposes le film d'Amin Naifi qui s'appelle 200 mètres.
200 mètres, oui, ça s'écrit 200 d'ailleurs en chiffres, mètres, oui, c'est de l'aventure, c'est du drame également. C'est un premier long métrage d'Amin Naifi. C'est un réalisateur scénariste palestinien. Il a 33 ans. Ah, il a l'âge du Christ. Oh, ça va peut-être lui porter bonheur. Et il a passé des années de formation, lui, entre la Jordanie et la Palestine. Eh oui, Amin. Donc c'est un film au croisement du documentaire et de la fiction. Ça parle de Mustapha, d'un côté, de Salwa et les enfants de l'autre. Une famille qui vit séparée de chaque côté du mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Voilà, là on comprend le titre. Il résiste au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour vivre, entre guillemets, comme tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l'autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d'un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes. C'est un film palestinien, jordanien, qatarien, suédois, italien. Tout le monde s'y est mis ? Et oui ! On a Ali Suleiman, qui est un acteur israélien dans le film. On a une actrice autrichienne, Anna Unterberger. On a une actrice arabe, israélienne d'ailleurs, elle est arabico-israélienne, Lana Zrek. Et on a un acteur israélien dans les rôles principaux aussi, Ghassan Abbas. 200 mètres à voir. Intéressant, très chouette. Et voilà.
Et maintenant, tu nous proposes un film de Fernando Trueba qui s'appelle « L'oubli que nous serions ».
Eh oui, « L'oubli que nous serons ».
Que nous serons, oui, pardon.
L'oubli que... Oh, nous serions peut-être un jour, oui. C'est pas si faux tout compte fait. L'oubli que nous serons, c'est un drame historique, c'est un biopic. C'est colombien, c'est un film colombien. Fernando Trueba est un réalisateur, scénariste, producteur espagnol. Il a 66 ans, il a eu 5 prix, plein de nominations. Il a 40 ans de carrière, 27 tournages à son actif. Et il a eu le prix Goya 2021, c'est-à-dire meilleur film hispano-américain. Colombie, j'allais dire Colombe. C'est Colombie, on est en Colombie, puisque c'est un film colombien, justement. Colombie, dans les années 80. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. Le destin de ce médecin, engagé et père de famille dévoué, se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Donc le film est adapté de faits réels. L'oubli que nous serons est à la fois le portrait d'un homme exceptionnel, une chronique familiale et l'histoire d'un pays souvent marqué par la violence. Ouais. L'oubli que nous serons. Ça dure 2h16. Et c'est en fait L'oubli que nous serons a été tiré d'un roman, hein, c'est adapté d'un roman d'Hector Abad Faciolince, qui a été un immense succès et qui est aujourd'hui considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature hispanique. Alors, l'auteur n'est autre que le fils du docteur Abad, assassiné à Medellín en 1987. Et le réalisateur nous dit « Ce livre autobiographique est d'abord l'éloge, tout en délicatesse et respect, du fils à son père, médecin, humaniste, militant des droits de l'homme. C'est également la chronique d'une famille soudée autour de ce père de famille adoré de ses 6 enfants. Enfin, c'est une immersion dans la ville de Medellín, gangrénée par la violence des politiques et des narcotrafiquants dans les années 70-80. » Bah oui, le cartel de Medellín, qui ne connaît pas On en a tellement entendu parler, hélas. Hector Abad Facciolin, c'est l'auteur du roman, est né à Medellín en 1958. Il est journaliste, romancier, traducteur de nombreux auteurs italiens. Il traduit beaucoup de livres italiens, effectivement. Il a fait ses études de médecine à Medellín, justement. Et il a également suivi des études de lettres modernes. C'est vraiment l'assassinat de son père en 1987 l'a contraint à vivre en exil pendant plusieurs années. Eh oui. Donc Fernando Trueba, le réalisateur, a tourné à Medellín, où les lieux décrits dans le livre existent encore, nous dit-il. Tout comme certaines personnes d'ailleurs qui ont connu l'époque durant laquelle le film se déroule, à savoir les années 80. Et il nous dit, j'ai par exemple découvert que le comédien qui incarne le rôle du voisin juif avait connu le docteur Abad. Il est venu sur le plateau avec les vêtements qu'il portait à l'époque lors de leur rencontre. Le grand-père d'Elisabeth Minota, qui joue une des filles du docteur, a été assassiné. Sur le tournage, tout le monde était, de près ou de loin, concerné par cette histoire. Un jour, la famille Abad a invité toute l'équipe du film. J'ai alors contemplé cette scène incroyable, chaque membre de la famille aux côtés de l'acteur l'incarnant. Eh oui, c'est très troublant, hein. C'est très... effectivement, c'est un film très troublant, tout à fait. Il nous dit qu'il a trouvé, lui, dans ce pays, le réalisateur, un vivier d'acteurs de talent. En fait, à part l'Espagnol Javier Camara, qui a le rôle principal, tous les comédiens, les techniciens du film sont colombiens. Voilà, il n'y a que Javier Camara, j'allais donner son nom, acteur espagnol, qui joue donc Hector Abad. On a Nicolas Reyes Cano, qui joue le fils colombien. On a Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, et ce sont des acteurs colombiens. Effectivement, il n'y a que Javier Camara qui n'est pas
colombien.
Qui n'est pas colombien. L'oublie que nous serons. Très, très beau film.
Et on va terminer avec un film de Michael Chavez qui s'appelle Conjuring 3, sous l'emprise du diable.
Ah oui, ça me fait rire parce qu'ils en sont déjà au troisième parce que ça a énormément de succès. C'est de l'épouvante, hein. C'est épouvante, horreur, bien sûr, c'est sous l'emprise du diable. C'est américain et c'est quand même... Ça dure 1h29. Conjuring 3. Alors, sous l'emprise du diable, ça retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leur dossier secret, l'une des plus spectaculaires, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. C'est fou. Le réalisateur américain a 36 ans, là, Michael Chavez. Il est tout jeune. On a Patrick Wilson, Vera Farmiga dans les rôles. Ce sont des habitués de ce cinéma, ces acteurs-là. On a Rory O'Connor, Sarah Catherine Hook. Alors, Conjuring, c'est-à-dire ces trois, ça veut dire qu'il y en a eu deux autres avant, on est bien d'accord. Donc, il y a eu le premier Conjuring, c'était en 2013. C'était Conjuring, voilà, les dossiers Warren. Et en 2016, Conjuring 2, le cas Enfield. Et quand même, j'avais moi parlé de ce couple-là une fois à l'antenne. J'avais parlé de ce couple qui possède des dossiers secrets sur ce genre d'histoire, hein, où le diable est présent, voilà, bon, en tout cas, où les gens sont possédés, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc, ils sont assez, c'est un couple qui n'a peur de rien. En fait, effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le synopsis, qu'ils sont très aguerris et que pourtant, là, ils vont quand même avoir un peu les chocottes. Voilà, un peu de chocottes pour le couple. Et voilà. Et ils sont, bon, ce sont des spécialistes, mais quand même, hein, Le Conjuring 3, donc, il était mis en scène donc, par Michael Chavez, on l'a dit. À qui l'on doit, cet homme-là, La malédiction de la Dame Blanche, sorti en 2019. Et quand même, mais je crois que j'en ai parlé, moi, ici, parce que les films d'épouvante et d'horreur, qui sont des bestes, évidemment, j'en parle parce qu'il y a des amateurs, on le sait, puisque les cinémas se remplissent de spectateurs qui vont voir ces films. Mais ce sont d'excellents films, voilà, c'est ça. Comme dans tous les domaines cinématographiques, il y a aussi des daubes dans les films d'épouvante. Mais là, je parle de best quand même. Hein. Ce sont vraiment des très bons films. Pour les amateurs, c'est une sorte de régal quand même. Hein. Voilà. Et Conjuring 3, on finit là-dessus. Ouh. Ah oui, alors là, se défendre devant un tribunal en disant qu'on est en possession, on est possédé par le diable, on a une possession démoniaque qui nous a conduit les mains, là, ça c'est culotté, hein, faut quand même le dire. Je pense que peu de gens oseraient quand même se présenter. Peu de tueurs oseraient se présenter devant un tribunal en plaidant la possession démoniaque. Il vaut mieux en rire, mes chéris, c'est sûr. De toute façon, les films d'épouvante sont faits pour détendre. Ouais. Il paraît d'ailleurs que quand on a vu un film d'épouvante assez angoissant, il paraît que quand on sort, on n'a aucune agressivité en nous. C'est-à-dire qu'ils ont fait des expériences dans les hôpitaux psychiatriques aux États-Unis, en passant des films d'épouvante assez stressants, ils se sont aperçus que les spectateurs, qui étaient donc des gens qui faisaient partie des clients, si j'ose dire, de l'hôpital psy, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient plus aucune agressivité pendant plusieurs jours en eux, une fois qu'ils avaient vu un film comme ça, très stressant. Donc, c'est pour ça que je dis que peut-être ça détend tout compte fait. Quand on sort, on est pacifique, en quelque sorte. Ouais, je crois que c'est une expérience qui a quand même qui a été faite justement là-bas aux États-Unis, mais qui a eu du succès, je crois. Hein. J'avais vu des articles là-dessus. Ouais. Eh oui. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Anne pour toutes ces informations concernant le cinéma avec le Festival de Cannes et les sorties de la semaine.
Oui. Ben voilà, les sorties que je trouvais assez sympathiques quand même. Hein. Il y a de très beaux films.
Et du coup, on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Oui.
Et d'ici là, prends soin de toi et à très vite sur Radio Entre-Mer.
Mais oui, prends soin de toi également. Et puis, mes chéris, bah, vous aussi, hein, chers auditeurs, prenez soin de vous absolument. Hein, profitez de votre nouvelle liberté, on va dire ça comme ça. Tout en restant quand même un petit peu prudent, hein, toujours. Hein, bon, il y a certains gestes barrières encore, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on nous dise que tout est terminé pour l'instant. Alors, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez du soleil, la pluie viendra bien assez tôt. Pour l'instant, on a chaud, tant mieux. Ça fait du bien. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.